Ce samedi, dans Sens Politique, je recevrai l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Astrid de Villene.
Il est le premier invité d'une série consacrée aux religions dans la République.
Sens Politique, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La semaine prochaine, puisque l'Amérique paraît agitée aujourd'hui par des forces centrifuges, nous parlerons du maccartisme avec Hélène Arter. À partir de lundi, le cours de l'histoire de Xavier Mauduit parlera de l'histoire du feu sous le titre « Ça va chauffer !» Point d'exclamation. Il est 11h sur France Culture et c'est l'heure de retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Après demain lundi, un procès hors norme va s'ouvrir dans une salle austère du palais de justice du Lower Manhattan à New York, déclenchant sans doute pendant plusieurs semaines un maelstrom médiatique et politique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président va être jugé au pénal. Donald Trump devra répondre de 34 chefs d'accusation, à commencer par l'achat du silence d'une star du porno prélevé sur ses fonds de campagne avant et après l'élection de 2016. Le candidat républicain et ses avocats ont à trois reprises et jusqu'au dernier moment tenté d'éviter sa comparution et d'annuler l'interdiction qui lui a été signifiée à titre préventif d'injurier, de diffamer ou de poursuivre de sa vindicte sur les réseaux sociaux le président du tribunal, les procureurs, les jurés, les témoins et leurs familles. C'est à ce jeu qu'il maîtrise à la perfection que Trump s'est livré depuis un an, depuis sa mise en examen, au grand plaisir de ses militants dont la fièvre ne cesse d'augmenter à chaque étape de son lourd calendrier judiciaire. Comment et pourquoi la culture américaine a-t-elle à ce point mué qu'elle transforme en triomphe un parcours aussi lourdement lesté en scandales et drames en tout genre, à commencer par la tentative de renverser les élections de 2020 en lançant des émeutiers le 6 janvier 2021 à l'assaut du Capitole. L'aboutissement de ce procès-là, grâce à la majorité conservatrice de la Cour suprême, n'interviendra vraisemblablement qu'après le scrutin de novembre prochain. Comment donc procède le camp républicain pour amplifier une telle avalanche de désinformation fondée sur la négation des résultats de 2020 et ancrer le doute sur les prochains s'ils ne lui sont pas favorables? Quels sont les moyens déployés qui les financent, quelle que soit la légitimité du combat politique au sein même de l'espace démocratique? Sur quelle base se construit ce monde de réalités alternatives dont Donald Trump, la Bible à la main, est devenu le grand prêtre? Existe-t-il encore des freins à la politisation des algorithmes? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Tara Varma, qui est à la Brookings à Washington et que je remercie mille fois de s'être levé à l'aube. Il est 5h02 du matin pour vous, Tara. Merci d'être là. Elisa Schell, vous enseignez les sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Et Laurent Cohen-Tanuji, avocat international, membre des barreaux de Paris et de New York et essayiste. Laurence, cette campagne présidentielle paraît plus longue que d'habitude, à tel point qu'en Europe, beaucoup se lamentent déjà sur les résultats comme si tout était joué. Comment expliquer que ce long feuilleton judiciaire auquel est soumis Donald Trump est un effet inverse à ce que le bon sens pourrait indiquer?
Oui, en effet, les inculpations qui sont intervenues contre Trump dans les affaires pénales que vous mentionniez, hein, Stormy Daniels, le 6 janvier, etc., mais aussi ses condamnations dans des affaires privées qui ont eu lieu ces derniers mois. Il a été condamné à 450 millions d'amendes pour la corruption de la Trump Organization et ensuite à 84 millions pour avoir agressé sexuellement une journaliste, E. Jean Carroll, dans les années 90. Enfin bref, il y a une multiplicité d'affaires autour de lui et comme vous le dites, ça ne semble pas lui nuire dans les sondages auprès de sa base républicaine. Et effectivement, enfin, les Américains sont des gens décents et sensé, et donc on est très, très étonné. Je crois que l'explication, c'est la même depuis 2016, c'est qu'en réalité, Trump a réussi à imposer à sa base un récit, un narratif, comme on dit, un récit dans lequel il est la victime de l'état profond, de la vindicte des élites, d'une chasse aux sorcières, et qu'en fait, il n'y a que lui qui peut sauver le vrai peuple américain de la trahison des élites. Et donc, ça renverse tout sur la tête, si vous voulez, et à chaque fois qu'il est inculpé ou condamné, ça renforce cette image d'un champion des petits Américains qui volent à leur rescousse. Donc, tout ceci fonctionne depuis le début très très bien pour lui, enfin jusqu'à présent. Après, on va voir pour la suite.
Justement, est-ce que le procès qui s'ouvre lundi peut marquer un tournant ? Est-ce que ça peut être différent ? Laurent.
Alors c'est ce qu'espèrent évidemment les démocrates. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'impact que ça pourra avoir sur sa base. Il y a eu un certain nombre de sondages avant Noël, déjà anciens, qui indiquaient que si Trump était condamné dans une autre affaire, celle du 6 janvier, qui est la plus grave, c'est lorsqu'il a lancé des émeutiers contre le Capitole, eh bien, s'il était condamné dans cette affaire-là, eh bien, une petite portion des électeurs républicains qui pensaient voter pour lui ne voteraient plus pour lui. Là, on a vu qu'il a réussi à retarder ce procès-là, sans doute jusqu'à après l'élection. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais pour cette affaire de Stormy Daniels, on pourrait quand même imaginer que l'ouverture d'un procès au pénal contre un président, il va être sur toutes les chaînes. Je suis pas sûre que, quand même, ça ne va pas lui coûter en termes d'adhésion de sa base. Mais c'est ce que nous allons voir dans les semaines qui viennent.
Précisément, Laurent Cohen-Tanouji, vous connaissez à fond le droit américain, ce premier procès au pénal, pour lequel, s'il est condamné sur tous les chefs d'inculpation, et c'est évidemment inimaginable, Donald Trump pourrait passer 136 ans en prison. Avant d'en arriver là, Laurent, il va devoir être physiquement présent dans ce procès. Expliquez-nous le processus judiciaire.
On va avoir donc un procès qui va durer plusieurs semaines, dans lequel effectivement Trump est obligé de siéger. Il a d'ailleurs même indiqué qu'il voulait témoigner à son procès, donc il tient à y être. On lui a effectivement interdit les insultes, menaces et autres joyeusetés qu'il a déjà proférées à l'encontre d'autres juges, d'autres procureurs, etc. Les jurés, donc c'est un procès pénal, donc aux États-Unis, il y a un jury. Alors c'est un jury de Manhattan. Bon, Manhattan est un district qui est très très largement démocrate. Mais comme il y a eu des menaces de mort déjà contre des juges, des procureurs, etc., là on protège strictement l'identité des jurés, mais je crois comme Laurence Nardon que ça aura un impact. Alors, je pense pas qu'il faille s'intéresser uniquement à la base, parce que la base trumpiste, elle est, je pense, quasiment inébranlable, sauf effectivement en cas de condamnation sur le procès pénal concernant les événements du 6 janvier, mais qui, là encore, risque de ne pas aboutir avant l'élection. Mais je crois qu'il faut s'intéresser de manière plus large au camp républicain sur lequel il y a des divisions très importantes. Il y a des trumpistes, mais il y a aussi des anti-trumpistes. Et puis surtout, il y a les indépendants. Enfin, et c'est là, je pense, qu'il peut y avoir un impact d'une condamnation probable de Trump dans ce procès. Alors le problème, c'est qu'évidemment, c'est un procès qui est beaucoup moins important. Enfin, les faits reprochés sont beaucoup moins importants que des événements du 6 janvier, mais malgré tout, je pense que ça peut jouer.
Pour revenir, Laurent, sur l'aspect du processus judiciaire, les juges sont élus aux États-Unis et le président du tribunal...
Les juges fédéraux ne sont pas élus, ils sont nommés par le président avec l'aval du Sénat. Mais ce sont les juges d'État qui sont élus. Et là, effectivement, c'est un procès de l'État de New York.
Et donc, le juge qui préside au débat, qui s'appelle Mercham, est d'origine colombienne. On a entendu, parfois avec stupéfaction, la manière dont Trump désormais, encore une fois, et la base en est ravie, alimente cette idée que les immigrés illégaux sont en train de pourrir l'État américain. Ça explique, Laurent, ce qu'on appelle le gag order, qui est encore une fois l'interdiction à tout inculpé d'insulter la terre entière.
Oui, enfin, disons que en temps normal, quelqu'un qui insulte, enfin, un défendeur qui se mettrait à insulter un juge ou un procureur serait immédiatement condamné pour contempt of court, mépris de la cour. Donc tout ce qui se passe avec Trump est absolument sans précédent. Il a d'ailleurs insulté, il y a eu également des menaces, enfin, pas de lui, mais évidemment de sa base, contre des menaces très graves. Donc il y a l'ensemble du système judiciaire, des juges, y compris des juges républicains très importants, des juges fédéraux républicains qui se sont élevés contre cette attitude, cette agressivité, cette violence verbale de Trump et de sa base. Donc je pense que c'est un mouvement beaucoup plus général qui est à l'origine de ce gag order. Il y a une vraie résistance du système judiciaire fédéral, donc ce sont des gens qui sont nommés, ce sont de grands juristes, contre l'attitude de Trump. Mais ce qui est intéressant dans le procès qui va s'ouvrir demain, enfin ou lundi, c'est que en fait c'est pas le juge qui va condamner Trump, ce sont les jurés. Et là, donc c'est les citoyens américains. Et donc je pense que là, ça aura un impact, si vous voulez. Il pourra pas accuser le juge parce que ce sont des citoyens, donc des gens qui vont voter. Qui vont éventuellement le condamner. Je pense que ça, c'est quand même assez différent.
Partons à Washington, vous rejoindre Tara Varma. Donc, l'affaire qui va être jugée à partir de lundi, c'est donc l'achat du silence de Stormy Daniels, une star du porno, qui aurait eu une liaison avec Donald Trump, avant l'élection présidentielle de 2016, et celui qui était à l'époque l'avocat de Donald Trump la paye pour qu'elle se taise. L'avocat depuis a fait de la prison d'ailleurs et a expliqué la manipulation de façon à être remboursé de ce montant de $130,000 pour payer la star du porno. Bref, expliquez-nous l'ambiance à Washington ce week-end avant l'ouverture de ce procès qui frappe à la fois par sa vulgarité et sa résonance politique.
Alors absolument, et je pense que ça a été dit, c'est un procès clé parce que ce sont des jurés qui vont rendre leur verdict et Trump qui se présente comme homme du peuple, comme un homme qui est hors du système de ce qu'il appelle « the swamp » à Washington, donc vraiment le marécage de Washington, où il dit que tous les hommes politiques, hommes et femmes politiques, sont corrompus. Lui se présente comme étant hors du système et vraiment n'être en mesure que d'être jugé par le peuple de manière générale, notamment pour des élections. Et donc là, soudain, si le peuple américain, en tout cas des représentants du peuple américain, décident de le condamner, ça va vraiment le heurter. Et vous avez fait référence à la vulgarité du procès. C'est vrai que ce dont il est question, c'est de savoir si il a effectivement commis de l'adultère à un moment donné où sa femme aurait été enceinte avec une actrice porno. Et donc on est dans une ambiance effectivement assez différente de l'ambiance politique plutôt feutrée habituellement à Washington. Et c'est là où on voit que ce personnage que Donald Trump a cherché à créer d'homme providentiel américain risque d'en prendre un coup, en fait. Toute sa campagne va, va en prendre sérieusement un coup. Après, ce qu'on voit aussi ces derniers jours, c'est qu'il y a d'autres éléments dans la vie politique américaine, d'autres moments qui sont liés à des procès et à des rendus de verdicts qui vont jouer également. Et on le voit notamment dans l'Arizona cette semaine, qui a réinstitué une loi qui consacre quasiment l'interdiction de l'avortement dans cet État, une loi qui date de la guerre civile, et qui va le heurter lui aussi, parce qu'il a eu... Donald Trump, c'est vraiment un opportuniste. Et donc, il a adopté quasiment toutes les positions imaginables sur l'avortement. Il a dit qu'il avait été contre, puis qu'il avait été pour, qu'il avait été pro-vie, pro-choix. À un moment donné, il a dit qu'il était pro-choix, donc en faveur de la possibilité de l'avortement, mais qu'il détestait la position qu'il avait lui-même adoptée. Et donc, on voit qu'il va se retrouver, en fait, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'élection et des procès qui le suivent, il va être obligé de clarifier ses positions sur un certain nombre de sujets. Ce qu'il n'aime pas faire, c'est vraiment un opportuniste Donald Trump, et donc il s'adapte à chaque fois à la situation. Je pense que le verdict du procès ne lui permettra plus de mettre à jour cet opportunisme qui le caractérise.
Ce qui est frappant, Tara, à Washington, donc capitale fédérale, politisée à l'extrême, et qui semble tétanisée déjà depuis plusieurs mois par cette campagne présidentielle en cours, c'est en fait qu'à partir du moment où les résultats des élections précédentes sont niés au moins par un quart, sinon un tiers, des républicains, cela veut dire qu'en fait le doute s'installe sur le processus électoral en lui-même. Est-ce que vous en percevez des signes dans les études que vous menez vous-même?
Absolument. On voit une vraie inquiétude, notamment d'un certain nombre de républicains qui s'étaient qualifiés eux-mêmes de never Trumpers, et donc de personnes qui ne s'associerait jamais à Donald Trump, qui représente ce qu'on appelle un peu l'ancienne garde du Parti républicain, plutôt proche de Reagan, quand même dans une logique de respect de l'état de droit. On voit un certain nombre de ces personnes, notamment qui avaient condamné à mi-mot l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, en réalité se rendre compte que Donald Trump avance à marche forcée et a pris quand même le contrôle du Parti républicain après avoir été déclaré comme étant le candidat. En fait, il a vraiment pris le pouvoir à l'intérieur même des institutions du Parti républicain. Donc, il a remplacé, il y a eu des licenciements assez massifs au sein de l'institution du parti, et il a remplacé toute une partie de ses postes clés par des personnes de sa propre famille. Donc, on voit quand même un fonctionnement politique avec très peu de ce qu'on appelle due process. Et il y a une vraie inquiétude parce qu'en fait, on est dans cette logique de marche forcée où c'est très difficile de résister à la vague des républicains MAGA, donc Make America Great Again, qui est vraiment cette énergie que Trump a créée en 2015 puis en 2016, et qu'il arrive à mobiliser de nouveau. Et on sent cette ancienne garde républicaine assez perdue, presque orpheline, parce qu'elle ne se retrouve plus dans les institutions et les valeurs du parti aujourd'hui. Et en même temps, on ne sait pas si elle va voter pour Biden. Et c'est vrai que, encore une fois, ce que Donald Trump fait au quotidien, c'est remettre en cause les éléments fondateurs de l'état de droit, les éléments fondateurs aussi de la Constitution américaine. Liberté de la presse, liberté électorale. Et c'est assez inquiétant parce qu'il fait ça avec très peu de résistance. Et donc, bon, face à ça, Joe Biden, lui, dit bien que il pense que cette élection de novembre 2024 qui joue, c'est la question de l'avenir de la démocratie américaine, et qu'il a face à lui un candidat qui est en train de nier tous les éléments clés de la démocratie américaine que lui veut représenter et défendre. Et il y a une vraie inquiétude sur ce qui se passerait, effectivement, notamment en cas de victoire de Joe Biden que Donald Trump refuserait de reconnaître. Et il faut quand même ajouter aussi qu'on est dans un contexte, encore une fois, juridique, où la Cour suprême, j'allais dire, elle est acquise à Donald Trump. Je pense que c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il y a beaucoup de soutien de Donald Trump sur cette Cour suprême qui est censée valider l'élection. Et donc, on se pose des questions aujourd'hui qui auraient semblé de l'ordre de la science-fiction il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'on se demande si la Cour suprême respectera effectivement le vote final de l'élection.
Elisa Schell, comment le Parti républicain, qu'on appelait le Grand Old Party, qui est le parti de Reagan, le parti de la dynastie Bush, le parti des Rockefeller. Comment expliquer cette mutation quasi génétique du Parti républicain au profit de Donald Trump, avec un durcissement du socle trumpiste qui semble sans fin.
Alors, l'électorat du Parti républicain s'est transformé. Il est aujourd'hui composé principalement d'électeurs aisés, votant avec leur portefeuille, donc votant pour les déductions fiscales. Ça, c'est une part minoritaire, mais néanmoins influente dans l'électorat. Et le gros de l'électorat républicain aujourd'hui est un électorat blanc non diplômé. Et ces électeurs étaient, il y a encore une vingtaine d'années, principalement chez les démocrates. Il y avait plus 14% de ces électeurs chez les démocrates. Aujourd'hui, ils sont majoritaires à plus 30% chez les républicains. Donc, cet électorat blanc peu diplômé, il faut trouver un discours qui lui convienne. Et la rhétorique de Donald Trump, les déclarations incendiaires, les formulations tendancieuses, les remarques sexistes, la syntaxe approximative, tout ça, ce sont des éléments de langage qui conviennent à cet électorat. Et la stratégie de Donald Trump, pour cette élection d'ailleurs comme pour les précédentes, c'est de hystériser une base électorale. Donc, parce que pour faire une campagne présidentielle, il y a principalement deux techniques. On peut soit aller chercher l'électeur centriste moyen en adoptant un discours modéré, ou on peut aller galvaniser une base en lui demandant de contribuer régulièrement. Hein, c'est une part importante de la campagne de Trump, contribuer régulièrement pour compenser les frais judiciaires qui sont engagés avec les nombreuses procédures. Donc cette transformation de l'électorat du Parti républicain, elle est amorcée avant Donald Trump et c'est elle qui amène Donald Trump. Hein. Faut pas inverser la charge de la preuve en quelque sorte, puisque Donald Trump est vraiment le résultat d'un processus important et il vient aussi après des présidences qui ont été, on va dire, plus modérées par rapport à leur parti, que ce soit la présidence Clinton, que ce soit la présidence W. Bush ou même la présidence Obama. Il y a eu des positions assez centristes qui ont été adoptées et donc Trump vient remobiliser en polarisant davantage l'opinion.
Mais ce que l'on voit aussi, Elisa, c'est que au-delà de cet électorat américain viriliste, mâle, blanc, il y a beaucoup d'hommes afro-américains et hispaniques qui ont déserté un parti démocrate perçu comme élitiste, comme trop intellectuel, un parti d'experts, pour basculer vers Trump.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des éléments circonstanciels et puis il y a des éléments plus structurels. De manière circonstancielle, les dernières années pour les classes moyennes et notamment des minorités ont été un peu difficiles économiquement du fait de l'inflation, la difficulté de l'accès au crédit, le coût de la vie qui a augmenté, le prix de l'alimentation, le prix des loyers, le prix de l'essence, etc. Donc il y a une insatisfaction par rapport à Biden. Donc il y a une dimension de vote sanction chez cet électorat. Et il y a aussi des éléments plus structurels, c'est-à-dire que le Parti démocrate, qui s'est, il y a quelques dizaines d'années, appuyé sur, on va dire, les femmes et les syndicats, s'est détourné peu à peu de la classe ouvrière en acceptant, par exemple, les principes du néolibéralisme, hein, donc les nouveaux démocrates, hein, ou ce qu'on a appelé en Europe la gauche à la troisième voie. Et s'est approché de causes qui sont différentes, en soutenant par exemple les groupes d'intérêt qui étaient pro-migrants, contre la discrimination, soutenant les minorités sexuelles ou visant la protection du climat. Donc ça, ce sont des causes, et notamment des revendications identitaires, qui n'améliorent pas les conditions de vie des Américains modestes, qui certes parlent aux élites les plus éduquées, aux jeunes qui font des études supérieures, mais n'améliorent pas les conditions de vie des Américains moyens. Donc le Parti démocrate s'est détourné de la classe ouvrière, et cette classe ouvrière s'est détournée du Parti démocrate.
Laurence Nardon, revenons avec vous au déroulement de cette campagne. Que donnent les derniers sondages sur les rapports de force, disons, entre les deux camps ?
Alors, tous ces derniers mois, quand on regarde les agrégateurs de sondages pour avoir une image un peu globale de ce qui se passe au niveau national aux États-Unis, alors tout de suite, j'indique ce caveat nécessaire qui est de dire que un sondage à 6 mois ou plus ou 8 mois des élections ne veut rien dire, d'autant plus qu'on est dans un système où le vote n'est pas fédéralisé, mais il est éclaté dans les 50 États avec ce système du collège électoral. Bref, donc les sondages ne veulent pas forcément dire grand-chose. Néanmoins, sur le long terme, ils donnent une indication de la tendance. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, ça a été une sorte de longs désastres pour les démocrates, puisque petit à petit, on a vu Trump gagner sur Biden dans les intentions de vote des personnes interrogées et passer comme ça inexorablement. À l'heure actuelle, on était, parce qu'il y a un petit développement après, mais enfin, ces dernières semaines, on avait Trump qui dépassait Biden de 2 points environ, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, quand on opposait les deux hommes l'un à l'autre, mais il le dépassait de 8 points, ce qui est beaucoup plus grave, lorsqu'on ajoutait dans la question posée aux personnes sondées le troisième homme, c'est-à-dire Kennedy, Bob Kennedy, qui veut se présenter en indépendant et dont on voit qu'il prendrait des voix plutôt à Biden qu'à Donald Trump, ce qui est étrange parce que c'est un personnage plutôt complotiste et plaisant pour un électeur démocrate a priori. Mais bref, c'est comme ça. Et donc, c'est ce qu'on voyait et les démocrates avaient vraiment lieu de s'inquiéter. C'est peut-être toujours le cas, mais on voit un petit frémissement dans ces sondages et peut-être que le camp démocrate est en train de reprendre la main. Alors, pour tout un tas de raisons, et la première est que dans les sondages sur la confiance des ménages dans l'économie, on voit que le grand moment de colère des électeurs américains lié à l'inflation, dont a parlé Elisa il y a une minute, l'inflation a cessé d'augmenter, donc les prix ne vont pas baisser, mais enfin ils ont cessé d'augmenter, et on voit que la plupart des ménages américains commencent à reprendre confiance dans l'économie, et ça se traduit dans une confiance accrue pour le candidat démocrate, enfin le président en place, et ça c'est potentiellement une excellente nouvelle pour les démocrates, puisqu'on voit l'écart entre Trump et Biden se réduire dans ces fameux sondages au niveau national.
En revanche, on voit à quel point Gaza, le soutien réitéré à Israël sous la crainte d'une riposte iranienne au raid israélien à Damas il y a une dizaine de jours. Bref, on voit à quel point, Laurence, le soutien à Israël véritablement fracture et de façon très générationnelle l'électorat démocrate traditionnel.
Oui, absolument. Si on se place du point de vue des démocrates dans cette élection et qu'on fait une colonne des plus et une colonne des moins, on va peut-être les énumérer dans la suite de l'émission, mais il y en a beaucoup. Il y a l'avortement, comme on a déjà dit. Il y a l'économie, j'en ai parlé. Il y a la personne de Trump et sa brutalité qui vont peut-être nuire à la campagne de Trump. Et il y a Gaza, en effet, qui est peut-être l'accident final qui coûterait une réélection à Joe Biden. Puisque, comme vous l'avez dit, on a aujourd'hui un parti démocrate qui est éclaté entre une aile modérée qui est plutôt pro-israélienne, en tout cas pro-sioniste, et qui considère avec beaucoup d'embarras ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, mais ne veut pas pour autant interrompre les ventes d'armes, voter pour les résolutions demandant un cessez-le-feu. Il y a eu juste une abstention ces dernières semaines et c'était déjà un énorme changement. En gros, ça, c'est le camp Biden, c'est le camp de Anthony Blinken, le secrétaire d'État, de Jake Sullivan, le conseiller pour la sécurité nationale, etc. Et puis de l'autre côté, à la gauche du parti, alors vous avez parlé de fausses générationnel. En effet, ce sont beaucoup les étudiants, les jeunes diplômés et qui forment l'infanterie de cette aile radicale du Parti démocrate. Il y a aussi des figures plus âgées, parce que Bernie Sanders lui-même, qui est pourtant juif, a des propos extrêmement durs pour le président Biden et défend une solution à deux États, défend une demande de cessez-le-feu immédiate. Il représente cette nouvelle génération. Et donc là, on a peut-être quelque chose de très grave pour Biden, parce que ce sont des électeurs qui pourraient, alors on verra, hein, mais qui pour l'instant disent qu'ils pensent s'abstenir au mois de novembre prochain. Et tout l'enjeu plutôt de la campagne démocrate va être de les mobiliser malgré tout en leur disant nous progressons, nous sommes de plus en plus durs avec le gouvernement Netanyahou, ça reste à voir. Et puis surtout, je pense que ce qu'ils diront, c'est si vous ne votez pas pour nous, vous aurez Trump, et là la cause palestinienne sera encore moins entendue.
Tara Varma, ce qui frappe quand on suit ne serait-ce que la littérature des tracts électoraux, et en particulier du côté républicain, il faut bien le dire, c'est l'ampleur de la désinformation, c'est-à-dire, pour parler cru, des mensonges purs et simples, et on a l'impression que cela imprègne évidemment le socle trumpiste, mais même au-delà, au point de créer ce monde alternatif du temps de la présidence Trump, l'une de ses porte-paroles avait parlé sans embâge en disant « oui, ben ce sont nos faits à nous ». Donc est-ce qu'on est entré, Tara, dans un univers où les faits ont de moins en moins d'importance et où il y a des acteurs qui accentue en quelque sorte cette capacité et cette crédulité de l'opinion?
Absolument. Et d'ailleurs, cette représentante de la campagne Trump à l'époque avait dit « nous avons notre propre réalité alternative ». Et on avait beaucoup parlé de l'ère de la post-vérité à ce moment-là, parce que c'était quand même un moment assez frappant de ne plus... Mais c'est justement, Donald Trump, il s'attaque vraiment au socle de l'état de droit. Tout ce qui représente des faits scientifiques que l'on peut défendre, des démonstrations scientifiques, tout ça, en fait, il s'érige vraiment en opposition à cette idée-là. Et ce qu'il dit, c'est que lui, il transmet en fait les désirs et les volontés du peuple directement. Et donc, c'est assez inquiétant parce qu'effectivement, surtout à l'ère des réseaux sociaux qui sont quand même assez difficiles à modérer, ça constitue une des inquiétudes de l'administration aujourd'hui, on voit un certain nombre de manipulations de l'information, de fausses informations se diffuser assez largement. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux, mais on voit aussi que ça nourrit une partie des actualités qui sont retransmises dans les élections locales aux États-Unis. Et alors, on le voit dans les réseaux sociaux, notamment, je trouve, avec Elon Musk, la personne qui détient le réseau social X, qui s'appelait Twitter avant, qui régulièrement poste lui-même, alors qu'il a des millions de followers, de suiveurs, des informations sur le fait que l'administration Biden encouragerait la migration de populations, notamment d'Amérique centrale et latine, pour transformer le pays et pour gagner l'élection. Donc lui, qui est quand même au cœur du système, le fait très ouvertement et il y a assez peu de recours contre ses actions à lui, dans un pays où la liberté d'expression prime. Et on voit de la désinformation qui provient aussi d'un certain nombre des rivaux des États-Unis. Alors là-dessus, ce qui est intéressant, je trouve, ces derniers jours, c'est qu'il y a quand même eu une réaction du Parti républicain, donc de Mike McFaul, le président de la Commission des Affaires étrangères, et de Mike Turner, président de la Commission extraordinaire sur le renseignement, qui ont dit qu'en réalité, il y avait de la désinformation provenant de la Russie qui était descendue directement sur « on the floor », sur le sol de la Chambre des représentants, et qu'il fallait s'en inquiéter, et donc en fait, notamment de la désinformation pro-russe et anti-ukrainienne, que l'on voit et qui est en fait un sujet vraiment prominent de politique étrangère et de politique intérieure aujourd'hui aux États-Unis. Les Européens attendent le vote de l'aide supplémentaire à l'Ukraine depuis maintenant des mois. On nous dit tous les mois qu'elle va être votée et en fait Donald Trump a explicitement dit à Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, qu'il ne fallait pas voter en faveur de cette aide à l'Ukraine. Et parce qu'en fait il y a un narratif pro-russe qui est effectivement assez prominent aujourd'hui dans le Parti républicain, contre lequel on a du mal à lutter. Mais j'ai trouvé ça intéressant que ces deux présidents de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission du renseignement, qui en fait ont dit, en allant un peu à l'encontre de la tendance de fond de leur parti aujourd'hui, qu'il y avait cette désinformation qui était défendue vraiment dans la Chambre des représentants. Donc j'espère que ça va provoquer un sursaut, ce n'est pas sûr du tout, mais c'est un moment qui est quand même très inquiétant ici.
Laurent Cohen-Tanoudji, ce qui est frappant pour nous autres Français et Européens, c'est que la Constitution américaine, qui a été à peine modifiée depuis qu'elle a été écrite, et en particulier le rôle majeur du premier amendement qui garantit à tout Américain une liberté d'expression totale, à quel point cette Constitution continue d'être véritablement le pivot du processus judiciaire, bien sûr, mais aussi de la liberté d'information, avec toutes les déformations que cette liberté induit aujourd'hui avec les outils numériques.
Oui, en effet. Si vous me permettez, je voulais peut-être exprimer un tout petit peu moins, de revenir sur quelques choses qui ont été dites.
Et oui, mais rapidement, Laurent, parce que
oui, un tout petit peu moins de pessimisme que ce qu'on a entendu, parce que on a jusqu'à présent les principales élections, notamment les midterms, ont été gagnées par les démocrates, hein, contrairement à ce que les sondages indiqué, il n'y a pas eu de vague républicaine dans les midterms. Les démocrates ont plutôt gagné et depuis ils continuent à gagner des élections. La polarisation, elle est dans toutes les démocraties occidentales actuellement. Et donc, il y a un phénomène Trump qui est un phénomène spécifique de l'homme fort. Il y a la rencontre entre cette polarisation politique et ce personnage hors du commun. Mais c'est quelque chose, c'est un phénomène assez général.
Et enfin, mais ce qui a changé, Laurent, et ce qui est très amplifié dans cette campagne américaine, c'est l'importance de ces outils numériques qui, oui, encore une fois, absolument, fondés sur la liberté totale d'opinion, peuvent dire absolument n'importe quoi.
Absolument. Je crois que, effectivement, les réseaux sociaux, de manière générale, sont une cause très importante de la dérive des démocraties occidentales, des démocraties américaines, mais également des démocraties occidentales de manière plus générale, parce qu'il y a une désinformation interne de la part de partis extrémistes, mais également d'interférences étrangères. On a parlé de la Russie, de la Chine. Il y a des tentatives délibérées d'interférer, de créer du chaos dans les sociétés occidentales. Et malheureusement, on est assez démunis et on sent bien qu'il y a une chose de collusion entre les partis extrémistes des démocraties occidentales et les ennemis extérieurs des démocraties. Et ça, c'est un phénomène général et extrêmement inquiétant qui n'est pas propre aux États-Unis.
À Bruxelles, la Commission européenne, et ça a été approuvé par le Parlement européen, a mis en place une réglementation pour protéger les données privées des internautes, pour protéger en particulier les jeunes et les enfants. Et il semblerait, Laurent Cohen-Tanoudji, que le Congrès américain, et cette fois il s'agirait d'un projet de loi bipartisan, serait sur le point, ce qui serait très intéressant en pleine campagne présidentielle, sur le point d'essayer de faire passer ce projet de loi de protection contre la politisation excessive des algorithmes, ou plutôt l'exploitation des données individuelles pour mieux servir les candidats en présence. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir ?
Ça pourrait aboutir. C'est un domaine dans lequel l'Europe a montré la voie depuis le début, hein, sur la protection des données personnelles, mais également avec le Digital Services Act, le Digital Markets Act, enfin même sur la régulation des plateformes numériques, sur le contrôle exercé, la pression exercée sur elles. Et là, Thierry Breton a fait un travail remarquable. Et les États-Unis, la Californie a déjà, depuis plusieurs années, adopté un régime de protection des données personnelles calqué sur le régime européen. C'est un domaine dans lequel l'Europe montre la voie, y compris notamment dans les procès antitrust contre les mastodontes du numérique. Et on voit que les États-Unis sont en train de suivre cette voie-là, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un véritable danger pour la démocratie, pour la liberté.
Elisa Schell, revenons aux analyses de la société américaine, de cette transformation que vous avez commencé tout à l'heure à nous expliquer. On voit Donald Trump maintenant qui vend sur les réseaux, et certains lui appartiennent d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle Truth Social, il vend une Bible pour $60. Il dit, la Bible, c'est mon livre préféré, bien évidemment. Comment expliquer ce rôle majeur de la religion, des différentes églises protestantes et singulièrement des évangéliques dans la vie politique américaine, un rôle qui s'accentue, me semble-t-il.
Alors, la société américaine n'est pas, comme la société française, une société laïcisée. Donc c'est une société dans laquelle le surnaturel, de manière générale, occupe une place très importante. Et la religiosité des Américains, qu'elle se dirige vers des églises, on va dire, plus classiques, traditionnelles, ou des formats, on va dire, plus personnels de la foi, les États-Unis sont une société profondément religieuse. Donc Donald Trump joue là-dessus, mais il faut se souvenir, par exemple, que Barack Obama n'était pas particulièrement religieux et que à l'approche de ses ambitions présidentielles, il s'est découvert des liens plus proches avec certaines églises protestantes. Donc le fait de mettre en avant la religion pour un président états-unien, c'est un peu une figure imposée. Alors pour cette Bible, elle est effectivement particulière puisqu'elle s'adresse vraiment aux chrétiens nationalistes, on pourrait dire, puisqu'elle mêle à la fois les paroles de Jésus et des références aux grands textes américains visant à regalvaniser le patriotisme. Donc on est effectivement sur un créneau de politisation de la droite religieuse depuis les années 70, sur lequel joue Donald Trump. Donc, il utilise tout simplement des forces qui sont présentes dans la société américaine et qui sont des électeurs mobilisés et fidèles.
Et cette crédulité dont vous parlez, quel est le pourcentage des Américains qui croient, par exemple, aux ovnis et aux fantômes?
Sur le surnaturel, effectivement, ça c'est un autre aspect que celui de la religion, c'est la croyance aux phénomènes paranormaux. Donc l'année dernière, le très sérieux Ipsos avait fait un sondage et avait fait ressortir que 42% des Américains croient aux ovnis et 39% croient aux fantômes. Alors c'est à peu près la même proportion que ceux qui créditent Donald Trump d'une certaine honnêteté, mais on ne sait pas si c'est les mêmes, évidemment, d'un point de vue méthodologique. Ces croyances irrationnelles sont vraiment présentes dans la société américaine, et c'est pour ça que les mensonges de Trump peuvent aussi prendre racine, puisqu'il peut raconter toutes sortes de choses, que ce soit l'inflation qui aurait augmenté de 50% sous Biden, que ce soit les 1 million d'emplois perdus par les Américains natifs au profit des migrants, le fait que la Russie n'aurait pas interféré dans les élections de 2016, et bien sûr, le plus grand mensonge de tous, l'élection volée de 2020. Donc ce fond irrationnel existe dans l'électorat. Il faut bien se rappeler que les électeurs du Parti républicain et les électeurs de Trump ne sont pas les catégories sociales éduquées qui valorisent la rationalité, l'impartialité, et que dans la tradition, d'ailleurs religieuse américaine historiquement, il y a un anti-intellectualisme très fort et une croyance que la vérité, c'est ce qu'on pense dans son cœur, c'est sa conviction, c'est une forme d'illumination intérieure, et ce n'est pas la raison, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la rationalité qui l'emporte. Donc, tout ça, ça a nourri aussi ce qui a bien été identifié par le politiste américain Richard Hofstadter, un style paranoïaque de la vie politique américaine qui ne s'est pas seulement dirigé pendant la guerre froide contre les communistes, mais aussi contre toutes sortes de catégories de population, que ce soit les catholiques, jugés papistes, les mormons, les noirs, les juifs, même les francs-maçons. Donc il y a ce fond dans la société américaine, souvenons-nous du Covid qui n'est pas encore très loin, un quart des Américains
certains pensaient que le Covid avait été créé de manière complotiste. Un tiers des républicains croient aux théories du complot. Donc on est vraiment dans une société marquée par le conspirationnisme qui prévaut dans les populations, les peu diplômés qui sont la base de l'électorat Trump. Et conspirationnisme, qui d'ailleurs, c'est un peu le paradoxe des États-Unis, n'est pas non plus totalement absent des milieux plus éduqués, mais c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que Donald Trump s'appuie vraiment sur la sociologie de son électorat pour ancrer ses contre-vérités.
Précisément, Laurence Nardon, revenons un moment sur ce candidat tout à fait qui peut paraître extravagant, d'autant qu'il s'appelle Robert Kennedy, ce qui est quand même chargé de toute une mémoire et d'une nostalgie aussi du côté démocrate en tout cas, donc ce Robert Kennedy, et qui s'appuie sur ce qu'Elisa Schell vient de nous expliquer, c'est-à-dire la théorie du complot, donc le Kennedy en question, candidat maintenant qui veut en fait incarner un troisième courant pour cette prochaine élection présidentielle. Ce Robert Kennedy anti-vaccin, expliquez-nous le personnage et le rôle qu'il pourrait jouer, s'il vous plaît.
Oui, Robert Kennedy, oui, vous avez raison, c'est un peu le genre idéal, mais dans un mode complotiste, donc c'est un espèce de mix un peu étonnant. Il était au départ inscrit comme démocrate, et donc, il y a quelques mois, il était parti pour faire la campagne des primaires démocrates contre Biden et les autres candidats très très minoritaires qui sont dans cette campagne démocrate. Et puis quand il s'est rendu compte que il n'avait aucune chance d'être désigné par le parti, il a coupé les ponts et a décidé de se présenter en indépendant, ce qui lui pose beaucoup de problèmes parce que il faut qu'il ait une machine de campagne dans les 50 États, ce qui coûte très cher, donc il n'est pas complètement certain qu'il pourra y arriver.
Il a choisi comme vice-présidente éventuelle une femme multimilliardaire qui est l'ancienne épouse de Sergey Brin, l'un des fondateurs de Google. Donc là, il peut avoir les ressources financières nécessaires.
Mais il aurait donc, grâce à son épouse, ses ressources financières, mais enfin, il faut encore créer des équipes sur le terrain fois 50. Donc l'argent peut l'essentiel, mais il faudra aussi trouver des militants convaincus. Donc ça reste quand même un petit peu compliqué par rapport aux deux autres partis qui sont installés là depuis des décennies. Mais quant à son positionnement politique, en effet, il est très surprenant. Donc il est complotiste depuis le Covid sur cette histoire de vaccins fabriqués et très nocifs pour les Américains. Donc il était anti-vax en gros. Et c'est un peu l'essentiel de son positionnement, hein, dont on ne sait pas, qui n'est pas très clair sur l'ensemble des sujets. Par exemple, on ne sait pas très bien ce qu'il ferait sur l'Ukraine ou sur Gaza.
Parmi les doutes qui, évidemment, pénalisent lourdement la campagne de Joe Biden, il y a d'abord son âge et son état physique, sinon intellectuel, en tout cas sa rapidité. Et l'on voit que la vice-présidente Kamala Harris, qui hier faisait campagne dans l'Arizona, donc dans l'état, ça a été mentionné, qui vient de ressusciter une loi interdisant pratiquement toute forme d'avortement, une loi qui remonte à 1864, Kamala Harris, qui deviendrait, s'il arrive quoi que ce soit à Biden, qui deviendrait de facto, Laurence, la candidate démocrate. Et on ne peut pas dire que sa popularité soit au zénith.
Oui, alors là-dessus, en effet, donc l'âge de Biden est un gros problème pour tous les électeurs démocrates, et une opportunité d'ailleurs pour le camp républicain, parce que quand vous ouvrez un média conservateur, on vous explique que Biden est complètement sénile. Et là-dessus, il y a eu un progrès qui a été son discours sur l'état de l'Union qu'il a prononcé devant le Congrès il y a quelques semaines et dans lequel il a été très bon. Il a fait un discours qui a duré 1h10, enfin très précisément, et pendant lequel il a été alerte, il a répondu au vol, aux interruptions venues d'élus dans la salle. Il a expliqué de manière extrêmement claire tout ce qu'il avait à dire, sans se tromper de nom, sans bafouiller, enfin tout, sans faire ses erreurs qu'attendaient ses adversaires politiques. Et donc là, on a l'impression d'une entrée en campagne de Joe Biden qui est plutôt réussie. Il se montre plutôt alerte et dynamique, ce qui vient, si vous voulez, diminuer les attaques en sénilité portées par ses adversaires. Mais vous avez raison, s'il lui arrive quelque chose, c'est Kamala Harris qui prendra le premier rôle. Et on se demande pourquoi il a conservé cette vice-présidente. Là, on entend dire, les responsables du Parti démocrate indiquent qu'elle sera réinvestie comme vice-présidente, selon toute vraisemblabilité, lors de la convention du parti qui a lieu en août prochain. Alors pourquoi ? Parce que je pense que pour le Parti démocrate, il est tout simplement impossible de trouver quelqu'un qui coche les mêmes cases que Kamala Harris pour la remplacer. Parce que pour l'électorat féminin, l'électorat noir que le Parti démocrate essaye de conserver, bien entendu, l'impact de la nomination d'une personne qui ne serait ni noire ni femme serait, à mon avis, enfin dans leur calcul, trop grand, et donc ils ne peuvent pas se permettre. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent la remplacer.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent la remplacer. Néanmoins, est-ce que c'est un scénario qui serait politiquement et juridiquement possible, Laurence ?
Eh bien, jusqu'à la conférence. Alors oui, c'est ça. Alors là, on est en terrain inconnu. Mettons que jusqu'à la convention du mois d'août, le Parti démocrate peut nommer quelqu'un d'autre à la vice-présidence, puisque c'est l'investiture qui aura lieu pendant cette convention qui décidera. Et puis après, on aura un ticket, donc président-vice-président, investi pour de bon pour l'élection contre les Républicains et Bob Kennedy. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élection générale. Si à ce moment-là, il y a un accident de santé grave pour Biden, en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passerait parce que ça ne s'est jamais vraiment produit, à part en 1968, mais c'était avant la convention d'ailleurs. Si le candidat disparaît une fois qu'il a été investi, il faudrait très rapidement que le parti se réunisse et réinvestisse quelqu'un d'autre. On est donc en terrain inconnu, mais ça n'est pas si grave que ça, d'une certaine manière, parce que ce sont des règles qui ne sont pas écrites dans la Constitution, ni même dans la loi fédérale. Ce sont des règles, ces histoires d'investiture, du ticket présidentiel et vice-présidentiel, ce sont des règles qui dépendent en réalité uniquement des partis. Et celles avec lesquelles les Américains opèrent aujourd'hui, ne datent que des années 70-80. Elles sont d'ailleurs légèrement modifiées à chaque cycle électoral. Donc ce ne serait pas, si vous voulez, un problème constitutionnel que d'avoir à nommer quelqu'un d'autre en dernière minute.
Avant d'en arriver là, Tara Varma, revenons à plus court terme au jeu politique à Washington. Je rappelle que vous êtes maintenant à la Brookings Institution, qui est l'un des grands think tanks américains, basé dans la capitale fédérale. Le patron républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est allé voir Trump à Mar-a-Lago il y a quelques jours, est, semble-t-il, dans une situation de plus en plus intenable, menacée par l'aile droite de son propre parti, prise en tenaille par cette aile droite et par Trump lui-même. Et en fait, l'apprentissage de la réalité, c'est très intéressant, parce qu'il a accès aux informations classifiées concernant la situation en Ukraine, concernant Gaza, concernant l'infiltration ou la désinformation russe et chinoise. Est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, il pourrait faire passer ce paquet d'aide financière et militaire à l'Ukraine, et le commandant en chef ukrainien vient de déclarer que la situation sur le front Est dans son pays est fortement détériorée.
Alors, il dit depuis plusieurs semaines qu'il va le faire et que chaque semaine, il va mettre en fait cette proposition de loi sur la table. Il y a eu un moment donné où Donald Trump l'a explicitement empêché de le faire. Il a rencontré justement Donald Trump à Mar-a-Lago hier, à vrai dire, et où Donald Trump a très officiellement réitéré son soutien à Mike Johnson. Mais effectivement, Mike Johnson, il est pris en tenaille, notamment par l'aile droite, vous l'avez dit, en fait, le Freedom Caucus, donc le caucus de la liberté, dont on sait qu'ils ont déjà en fait une victime en Kevin McCarthy, le prédécesseur de Mike Johnson. C'est à l'époque l'élu républicain Matt Gaetz de Floride qui a réussi à faire perdre son poste à Kevin McCarthy. Et aujourd'hui, c'est Marjorie Green qui fait partie de ce même Freedom Caucus, qui menace de faire destituer Mike Johnson également, précisément sur la question de l'Ukraine. Une des propositions que Donald Trump a mis sur la table il y a quelques jours, ce serait d'accepter de mettre le texte au vote à la Chambre des représentants sur la base non plus de subventions ou de dons à l'Ukraine, mais de ce qui serait en fait un prêt. La réalité de la situation aujourd'hui à Washington, c'est que même si cette proposition était mise sur la table et qu'elle était votée par des démocrates et des républicains, on n'a aucune idée de la manière dont l'Ukraine pourrait à un moment donné rembourser les États-Unis de cette aide supplémentaire. Donc il y a des questions très pratiques qui sont mises. Mais avant même de pouvoir procéder au vote, la rédaction de ce texte pose aussi beaucoup de questions. Parce qu'en fait, une des possibilités pour Mike Johnson, ce serait de mettre un texte sur la table en faveur d'aide supplémentaire à l'Ukraine et également à Israël. Mais en contrepartie de propositions extrêmement conservatrices, notamment sur les questions de contrôle aux frontières et de migration. Que les démocrates qui sont en faveur, eux, de l'aide à l'Ukraine, ne pourraient donc pas voter parce que ça contreviendrait vraiment à leur politique sur les questions migratoires. Et donc on est effectivement dans un moment donné où les républicains sont pris en tenaille, notamment par Donald Trump, mais les démocrates eux-mêmes qui seraient en faveur d'aide supplémentaire à l'Ukraine se retrouveraient à voter sur des positions de politique nationale qui serait totalement contraire à leur position traditionnelle, à un moment donné où la campagne électorale bat son plein. Et donc, ce que nous disent un certain nombre de représentants démocrates, c'est que finalement, même si Mike Johnson mettait un texte en faveur de l'aide à l'Ukraine sur la table, si les propositions en faveur de davantage de contrôle aux frontières contrevenaient à leur programme, ils ne voteraient pas en faveur de cette aide à l'Ukraine. Donc, on n'a aucune certitude aujourd'hui. C'est assez inquiétant, mais c'est précisément dans ce contexte d'incertitude que se complaît Donald Trump et ses soutiens. Parce que ça a tendance à le conforter, lui, dans cette idée qu'effectivement Washington est un lieu totalement dysfonctionnel et qu'il ne représente pas vraiment les intérêts du peuple américain. Et donc on est nous-mêmes pris en tenaille, alors en tant qu'Européens en particulier, parce qu'on attend évidemment le vote à cette aide avec anxiété, mais on n'a aucune visibilité sur la manière dont les choses vont se dérouler dans les prochains jours.
Et cela veut dire, Tara, en guise de conclusion extrêmement provisoire, qu'en fait, le jeu politique est devenu tellement partisan que l'aile dure des républicains sont prêts à empêcher tout projet de loi, toute loi, pour ne pas accorder la moindre victoire potentielle à l'administration démocrate.
Absolument. L'idée, en fait, pour ce Freedom Caucus, l'idée de travailler de manière bipartisane, c'est-à-dire avec les deux parties, d'arriver à trouver une voie commune, une manière commune de travailler en faveur des intérêts du peuple américain, ce qui est quand même arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire politique américaine, ça va totalement à l'encontre de leur vision, où il y a une prise de pouvoir idéologique extrêmement forte, et de la logique, c'est vraiment soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous.
Eh bien, je vous remercie tous, à commencer bien sûr par vous, Tara, et je rappelle encore une fois que pour vous, il est quand même 6h du matin, moins 3 minutes. Donc, merci mille fois. On retrouve vos analyses, bien sûr, sur le site de la Brookings. Je remercie Laurent Cohen-Tanoudji, qui a publié « Résistance, la démocratie à l'épreuve » aux éditions de l'Observatoire, c'était en 2018, et « Droit sans frontières, géopolitique de l'extraterritorialité » chez Odile Jacob en 2023. Elisa Schell Vous allez participer au colloque de lancement, qui a l'air tout à fait passionnant, l'Observatoire de la politique extérieure américaine au sein de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et vous avez coordonné un numéro spécial de la revue politique américaine sur les grands enjeux de cette élection présidentielle. Ça paraîtra en juin prochain. Et Laurence Nardon, je ne vous oublie pas bien sûr, vos analyses et votre podcast sur Slate, dont je recommande bien sûr la qualité, et vous avez aussi signé la préface de la traduction du rapport sur la commission d'enquête sur le 6 janvier 2021 qui reste évidemment, hélas, d'actualité. À la réalisation ce matin, Sam Bakias, à la technique Ludovic Augier, merci à Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast. Et maintenant, voici Nora Amadi, Sous les radars. Très bon week-end et à samedi prochain.